Comme un village avec Anne Bruno.
À la fin de cette conférence, en plus, là, il y aura donc une dédicace de livre, puisque la personne qui intervient, donc Anne Bruno, avec ses co... je sais pas comment dire... ses colistiers, oui, c'est la mode actuellement, les colistiers. Un livre a été produit et donc il sera disponible à la fin de la conférence. On doit le retrouver également peut-être sur des stands, je pense, de, des librairies en particulier. Il y a la Griffe souvent qui nous fait... Et là, voilà, donc 30 minutes maximum pour vous, pour présenter. Et puis après, eh ben, on passe le micro.
Donc, bonjour. Je m'appelle Cécile Vialon et je suis donc la présidente du mouvement pour de Eco-Habitat Groupé. Alors, ma confusion vient du fait que c'est la suite du mouvement pour l'habitat groupé autogéré. On l'a refondé en 2009, donc on est les anciens de l'habitat groupé, aujourd'hui plus habitat participatif. Et à ce titre-là, on a été un peu mandaté par les nouveaux pour transmettre notre expérience. Donc, on a engagé ce qu'on appelle un recueil d'expériences. On a obtenu une aide financière de la Fondation de France qui nous a permis de payer des stagiaires qui ont recueilli les témoignages de 24 habitats groupés anciens. À partir de ces témoignages, on a demandé ensuite s'il y en avait qui voulaient témoigner individuellement. Et là, on en a eu 70 témoignages individuels. Ça a tout été mis par écrit, ça a fait 800 pages. On a fait un premier recueil d'expériences de 40 pages et un résumé, en somme. Et ensuite, on a cherché à faire quelque chose qui soit plus grand public et plus facile à lire. Et donc, il y a un membre du CA d'Eco-Habitat Groupé qui a sollicité Anne Bruno, ici à ma gauche, pour écrire un roman. Alors Anne vous expliquera un petit peu comment elle s'y est prise. Et aujourd'hui, donc, c'est ce roman qu'on vous présente pour vous donner un petit peu envie. Donc elle va vous dire comment s'y est pris et puis ensuite on lira un petit peu quelques passages du roman pour vous en donner le ton. Voilà. Alors, vous avez aussi des flyers de coaptitude parce que Eco-Habitat Groupé est une association nationale dont les objectifs sont de créer des associations régionales pour que les gens puissent avoir des interlocuteurs au niveau de l'habitat groupé dans toutes les régions de France. Puisque tout ce qui concerne l'immobilier et le logement, ça se traite au niveau local, avec les collectivités, avec les habitants localement. Donc, sur Lyon, on a créé l'association Coaptitude en 2013, qui est sur toute la région lyonnaise, et on est en complémentarité avec l'association Habicop, qui, elle, développe l'habitat groupé uniquement en coopérative. Alors qu'à Eco-Habitat Groupé et à Coaptitude, toutes les formes d'habitat sont bonnes à partir du moment où les gens posent ensemble le problème de l'habitat, font ensemble la réalisation et surtout font ensemble la gestion ensuite de l'habitat et des locaux communs. Voilà, donc je passe la parole à Anne.
Bonjour, donc moi j'ai été contactée par EHG pour écrire un livre qui devait absolument... vraiment l'objectif principal c'était qu'il soit lisible par le plus grand nombre, et donc j'ai récupéré ces 800 pages de témoignages, et après la lecture des 800 pages, je voyais pas très bien exactement comment traiter toute cette matière documentaire. Un essai aurait été assez fastidieux, et du coup j'ai proposé un docu-fiction, c'est-à-dire une fiction, mais très documentée, qui part du réel, en recréant, en imaginant un groupe d'habitants qui décident de construire leur habitat participatif. Et l'enjeu, c'était aussi de pouvoir inscrire cette histoire dans le temps, puisque les personnes que j'avais en face de moi avaient construit leur habitat dans les années 70-80, donc avec 30 et 40 ans de recul. Et il y a aussi, c'était très important de pas uniquement parler de l'impulsion du départ, de la construction, mais aussi de voir comment ces habitants avaient vécu et vieilli et élevé leurs enfants dans ces lieux. Donc, à l'issue de cette lecture, je suis allée aussi rencontrer énormément d'habitants. J'ai visité des habitats participatifs. J'ai fait des entretiens moi-même pour avoir aussi des tonalités différentes et des expériences plus sensibles. Et puis, pendant 4-5 mois, j'ai commencé à construire ma communauté d'habitants virtuels, on va dire. Mais toujours en lien avec le groupe pilote d'éco-habitat groupé qui relisait et qui me permettait vraiment de ne pas faire de fausses routes, parce que moi je ne suis pas du tout spécialiste dans l'habitat participatif. Hein, mon boulot c'est plutôt d'écrire. Je viens de la presse régionale et puis je produis aussi beaucoup de documentaires. Et voilà. Et en fait, on a réussi à écrire un livre. Alors j'ai pris le parti d'avoir des entrées. Sur le mode du journal personnel de chacun des habitants, pour qu'on puisse intégrer le ressenti de plusieurs personnages dans cette aventure collective. Parce que vivre en habitat participatif, c'est d'abord un projet collectif, mais c'est aussi, on engage sa vie de famille et sa vie individuelle, et les deux sont liés, s'échangent. Il y a une intercommunication perpétuelle. Et de pouvoir aussi montrer qu'il y a des moments de... Il y a aussi des conflits, il y a aussi des choses qui se passent super bien, et d'autres moins, et des gens qui partent, d'autres qui arrivent. Et de pouvoir rendre compte, en fait, de toute cette réalité qui est vécue dans les habitats participatifs. Je vais passer la parole à Jean-Michel, et puis après, on va vous faire quelques lectures. Oui, alors, excusez-moi. Le livre a été publié par les éditions Repas, qui sont installés à Valence, et dans une collection qui s'appelle Pratiques Utopiques, qui est une collection qui permet à des citoyens qui ont mené des initiatives plutôt sur le mode de l'autogestion, ou qui ont inventé des modes de fonctionnement sur la coopérative, ou sur... Il y a eu un bouquin qui est sorti récemment sur Smart, qui est une coopérative d'emploi, ou sur Ardelaine, à Valence, qui était en Ardèche, hein, qui est un village qui a créé des ateliers d'insertion et qui a remis en route la fabrication de laine. Voilà, mais c'est plutôt une collection dans laquelle c'est un recueil de témoignages. Et donc là, c'est le premier docu-fiction, en fait, qu'il publie. Voilà, il y a un petit flyer ici sur les pratiques utopiques. Je pense que vous pouvez trouver en fond de salle avec Edwige. Une collection de livres qui sont vraiment... voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir transmettre ce qui a été fait par des militants, on va dire ces 30-40 dernières années, qui partagent leur savoir.
Alors, moi, je suis habitant d'un habitat groupé depuis 1985, donc dans le Nord-Isère, à Villefontaine, ça s'appelle la Viorne, voilà. Donc, dans ce livre, il y a 31 personnes, voilà, 31 personnages. On ne va pas lire 31 personnages. Donc on a choisi un petit bout de l'intervention de Nadia, qui est une sociologue, de Martine. Martine, elle est où? C'est une salariée associative. Il y a Hubert, qui est éducateur spécialisé, Jean, qui est ingénieur, Lou, qui est professeur de collège. Voilà, c'est... Voilà. Eh bien, on va commencer. Martine.
Ouais, mais je vais y arriver, ouais. Donc, je fais Martine. Nous avons beaucoup discuté avec Jean ces derniers temps de la manière dont nous vivions, mais surtout de la manière dont nous aimerions vivre. Et peut-être que la naissance de notre fille nous a permis de nous recentrer sur nos besoins réels. Nadia nous a prêté une brochure du MAGA et nous avons décidé, nous aussi, de nous lancer dans l'aventure de l'habitat autogéré. Après tout, nous avons déjà expérimenté cette forme de partage d'un logement lorsque nous étions étudiants. Nous étions très heureux de cette formule, c'était gai, et surtout, ça ouvrait le champ des possibles, parce qu'on était toujours surpris par les autres. Jean et moi avons gardé en tête les notes joyeuses de ces années. Et puis, à quoi rimerait d'avoir tant critiqué le chacun pour soi, pour finir par entrer dans le rang ? Nos engagements de jeunesse n'étaient pas des tocades post-adolescentes. Depuis, Jean et moi cherchons un lieu qui pourrait convenir, et ce n'est pas très facile. On ne sait pas encore si nous allons trouver un terrain et faire construire, si nous nous tournerons vers un office d'HLM, qui pourrait accueillir ce projet ou si nous trouverons un lieu à aménager. Nous avons décidé aussi d'aller rencontrer des groupes qui ont réalisé ce type d'habitat ou qui y travaillent, car de toute manière, monter un tel projet prendra du temps.
Donc, je vais vous lire un petit morceau de Corinne, donc, qui est une habitante qui rejoint le projet. L'idée des espaces communs a été essentielle dans mon adhésion au projet du hangar. J'ai surtout été emballée par l'idée de pouvoir participer à leur conception. Du coup, je passe beaucoup de temps à penser à ce qu'on pourrait y faire et à la manière de les aménager. Certains veulent une cuisine ouverte, d'autres uniquement une salle d'animation carrelée, d'autres encore imaginent un ciné-club, un club poterie, un four à pain, un four à céramique, une salle de répétition pour les comédiens ou les musiciens. Je crois que certains usages peuvent cohabiter dans le même espace, à l'exception des ateliers manuels qui demandent des installations spécifiques. J'ai demandé à Pablo, notre architecte, si le fond de la salle pouvait être équipé d'un petit box pour stocker les fours et les éléments de poterie en train de sécher, à côté de l'atelier destiné à Philippe. « Il faut voir », m'a-t-il répondu laconiquement. « Martine tient aussi à l'espace laverie pour qu'on évite tous d'acheter une machine à laver. L'idée est intéressante, mais cela demande de sérieusement s'organiser pour les lessives. Et puis se pose le problème du séchage dans un endroit propre et plus globalement des chaussettes qu'on va finir par dépareiller. » Et tout le monde n'a pas l'air très emballé à l'idée d'exposer ses petites culottes. Mais pas question pour Martine de renoncer à cette laverie. Elle fait une fixette dessus, je la soupçonne de vouloir éloigner de sa vue les colonies de layettes qui envahissent son petit appartement. Je peux comprendre. À titre personnel, je trouverais plus sympa à l'avenir de discuter dans un jardin autour d'une fontaine plutôt que devant le hublot d'une machine à laver. Mais pourquoi pas, c'est sûr, l'hiver, on risque de se rencontrer plus fréquemment à la laverie que dans le jardin. Pour l'instant, Pablo ne dit non à rien. Mais je me doute bien qu'il faudra sacrifier un bout du projet. Lequel ? On n'en sait encore rien. Ce qui me préoccupe, ce sont les couleurs, l'ambiance de cette salle, la tonalité qu'elle aura. Qu'elle soit belle et accueillante, c'est ce qui m'importe. Jean m'a rappelé aussi qu'il fallait penser à l'équiper d'une arrivée d'eau et de chauffage. Pour l'eau, ça ne doit pas être très compliqué, mais pour le chauffage, quand je mets le nez sur le plan de Pablo, je me pose des questions. L'espace est important, avec des grandes baies. Chauffer cette pièce va représenter un coût important dans les charges communes. Et ensuite, on va vous lire une réunion, un compte-rendu d'une réunion collective, parce que les réunions sont toujours le lieu où on discute de tout. Et donc là, le groupe est installé. Ils ont eu un petit souci. Et Lou, qui fait le compte-rendu de réunion, répercute un petit peu tous ces problèmes.
Voilà, ça se passe 5 ans après. Ils ont emménagé au hangar. Qui s'appelle comme, qu'ils ont appelé comme ça parce que en fait c'est un ancien hangar, enfin en partie, hein. Bien sûr l'architecte a rajouté des parties et voilà, donc c'est la réunion qui est un peu houleuse au départ. Alors Lou,
la réunion du groupe a été spécialement houleuse ce matin, j'en ai fait le compte rendu. Corinne a partagé la grosse frayeur qu'elle a vécue jeudi dernier alors qu'elle gardait les enfants de Martine et Jean. Elle a cru quelques minutes que Nils avait franchi le porche du hangar. Elle demande que le porche soit fermé pour éviter qu'un jour un enfant ne le franchisse réellement sans que personne ne s'en aperçoive. Martine a réagi en s'exclamant qu'il était tout de même incroyable qu'elle apprenne cet incident 2 jours après. Corinne a répondu que ledit incident aurait pu avoir lieu, mais n'avait pas eu lieu et que Nils ne s'était jamais retrouvé dehors.
Jean a demandé un tour de table pour que chacun s'exprime sur la question. Faut-il ou non fermer le porche ? Pour les enfants, mais aussi pour les vols de vélo, 3 ces derniers mois. De son côté, Hubert s'oppose formellement à toute fermeture du porche, car le hangar doit selon lui rester un espace semi-clos, ouvert sur la ville, l'extérieur, le monde, symboliquement. Il a rassuré Corinne en lui disant que cela peut arriver à tout le monde d'imaginer le pire. Martine s'est un peu emballée. Elle lui a rétorqué que ce n'était pas son fils qui avait été potentiellement enlevé. Hubert a répondu que Nils n'avait jamais été enlevé, ni de près, ni de loin, sauf dans l'imagination de Corinne, à qui il conseille d'analyser cette peur primaire. Et là, primaire toi-même, a hurlé Corinne à bout de nerfs.
Alors, je suis intervenue à ce moment précis pour demander que les échanges restent courtois. Nous avions déjà eu des différends, mais jamais ne nous étions lancés des insultes à la figure. Corinne a éclaté en sanglots, Martine aussi, et par communication de peur primaire, Hubert s'est allumé une clope. L'essentiel des fumeurs ont suivi et nous nous sommes bientôt retrouvés dans un nuage de fumée. Finalement, 1975, hein, Finalement, Annick a demandé que l'on fasse... Quelle année ? 84, nuages de fumée encore. Hein. Annick a demandé que l'on fasse une liste des avantages et inconvénients pour les deux options. Je lis la suite, oui. Et le tour a commencé. Chacun a exprimé son point de vue, soit en soulevant les avantages liés à l'ouverture, circulation en gare, quartier, aisé, dynamique d'insertion dans la ville, facilité d'usage, nécessaire responsabilisation des enfants petits et grands, volonté de lutter contre les tendances sécuritaires, soit en soulevant les inconvénients. Vigilance collective pour éviter les sorties des petits. Cette contrainte éducative qui consiste à apprendre aux enfants à avoir peur de l'extérieur répugne aux deux tiers du groupe. Vol de vélos, de fleurs et de matériel de jardinage ou visite indésirable.
Hubert n'a pas pu s'empêcher de dire que la fermeture du porche validait les peurs primaires et courantes. Après discussion, le mot « primaire » a été retiré, car perçu comme insultant. Et le seul consensus que nous avons réussi à formuler, c'est que la fermeture du porche protège les biens et les personnes, mais demande une sérieuse gestion des clés et un règlement à observer. Ainsi, après exposition des points de vue de chacun, sans réussir à obtenir un consensus large, nous avons décidé de laisser le porche ouvert pour l'instant. Nous remettrons ce point à l'ordre du jour à la rentrée de septembre.
Je suis Nadia. Ouais.
Nadia a proposé que Pablo soit consulté sur la question du porche en tant qu'architecte. Le groupe a approuvé. Nadia a regretté que le débat sur l'augmentation de la petite délinquance s'immisce dans la vie du groupe. Et Corinne de rétorquer que le maintien d'un climat paisible est profitable aux enfants plus qu'aux statistiques. Jean a clos le débat, lassé. Il a ramené la paix dans le groupe en soulignant que d'autres groupes d'habitants, d'habitats partagés, rencontraient les mêmes difficultés et qu'il ne fallait pas occulter le fait que la société ne changeait pas forcément pour aller vers un climat de confiance amélioré. Ces propos m'ont fait penser que je vois de plus en plus de personnes à la rue, beaucoup plus qu'auparavant. La crise économique s'installe, je vois bien en collège que certains jeunes vivent de grosses difficultés familiales. Enfin, la réunion s'est terminée doucement avec les actes en point du planning de sortie des encombrants que nous afficherons dans la salle commune, avec signature de celui qui les a sortis.
C'est pour voilà. Vous donner une idée de l'ambiance du livre. Il y a des choses drôles, des choses plus tristes. Donc, je suis aussi la conjointe de Jean-Michel et j'habite aussi la Viorne depuis 30 ans. Donc peut-être que dans l'assistance, il y a des gens qui vivent ou pas déjà en habitat groupé. Oui.
Bon, on va...
donc à ce moment-là, pour nous, c'est intéressant qu'ils nous disent un peu comment ils ont entendu les
choses. Je pense qu'on a deux types de, disons, d'auditeurs ou d'auditrices qui sont intéressés pour savoir comment s'est monté votre projet que vous vivez déjà depuis un certain nombre d'années. Mmh. Et puis d'autres qui pourront exprimer leur projet, comment ils le vivent, puisqu'ils sont dans un projet d'habitat groupé. Donc d'abord, on va peut-être prendre des questions, peut-être d'explications, de savoir un peu comment s'est monté le projet, je ne sais pas, s'il y a des questions. Allons-y, profitez-en, parce que vous avez des gens qui ont l'expérience.
Bonjour et merci d'être là. Moi, j'ai une question assez précise sur le montage juridique, parce qu'on est en train de faire un projet, et je pense que ça... Est-ce que ça a évolué dans votre groupe, le montage juridique ? Et lequel vous avez choisi ?
Est-ce qu'il y a une autre question ? On pourrait prendre tout de suite. Non.
Alors oui, tout à fait. En 30 ans, il s'est beaucoup évolué. C'est-à-dire, on a eu la chance de pouvoir démarrer sur un projet en locatif social de 13 logements avec les HLM de Voiron et des Terres Froides, puisque Villefontaine, c'est déjà l'Isère et le Rhône ne voulait pas s'occuper. Voilà. Donc, on a vécu comme ça en locatif social pendant 10 ans. Et puis, au bout de 10 ans, les HLM ont demandé à certains de payer un surloyer, compte tenu que les ressources avaient un petit peu augmenté. Et de ce fait-là, il y en a 4 ou 5 qui ont dit, bon, ben nous, s'il faut payer un surloyer, on va faire quelque chose d'autre en accession à la propriété. Et ils ont fait un autre habitat groupé à 500 mètres. Ensemble, ils ont été leurs propres promoteurs, ils sont neufs, mais ils n'ont pas fait de locaux communs, ils ont juste des extérieurs en commun. Donc on s'est retrouvés 3 ou 4 en locatif social et on a accueilli pendant 5 ans à peu près des locataires tout venant. Parce que en 95, l'habitat groupé, les gens, on connaissait plus personne qui aurait pu venir. Alors qu'en fait, on avait 3 mois pour trouver des colocataires. Mais il n'y a personne qui est venu. Donc c'est, les HLM ont nommé des gens et on avait des entrées et des sorties assez régulières. Et avec certaines familles, il y avait des difficultés. Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu fatigué et on a à nouveau demandé si on pouvait acheter nos logements. Parce qu'on l'avait demandé en 95 et là, ils avaient refusé. Donc en 2000, ils ont dit oui. Et au fur et à mesure que les logements se libéraient, on a pu acheter des logements et on a fait une copropriété classique. Et on l'a toujours. Et jusqu'à il y a un mois, il y avait encore 2 locataires. C'est-à-dire les locataires, à ce moment-là, ont eu très peur, on les fout dehors. Et les HLM ont rassuré tout le monde en disant, il n'y a pas de problème, vous restez locataire autant que vous voulez. Donc il y en a 3 qui sont restés, une qui a acheté au bout de 4-5 ans. Et le mois dernier, il y en a un qui est parti et donc le logement est en vente. Donc la structure juridique, à l'époque, comme on n'était que 4 ou 5, on n'a pas vraiment cherché quelque chose qui correspondait à l'habitat groupé. On a dit, on fait la copropriété classique, mais tout en gardant l'état d'esprit. C'est-à-dire, on a une association loi 1901 qui réunit tous les résidents, qu'ils soient locataires ou propriétaires, et qui, en fait, donne l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la copropriété. Et on a un nouveau statut, c'est-à-dire que dans celui qui est acheté il y a 2 ans seulement, il est parti acheter une autre maison avec une nouvelle compagne et il loue son logement. Donc on a un locataire privé et apparemment il y a des chances pour qu'il y ait un deuxième couple qui fasse ça et qu'on ait, alors on a tout. On a la locataire privée, on a le locataire pluraliste et on a les copropriétaires. Voilà un peu notre statut. Mais il existe bien d'autres statuts, si vous êtes renseigné. Il y a la SCIAAA, la coopérative d'habitants. Enfin, il y a toutes les sociétés sont possibles. J'ai répondu ?
Alors, pour essayer de garder l'esprit, pour garder l'esprit. Donc, on a un règlement intérieur. Et le règlement intérieur, il est accroché à la vente. C'est-à-dire que quand les nouveaux acheteurs signent le compromis de vente, il y a le règlement intérieur qui est annexé. Voilà. Et puis surtout, on fait une réception avant. C'est-à-dire que quand les gens sont intéressés, déjà on les reçoit et on fait une réception après aussi quand ils sont vraiment arrivants dans le bâtiment. Alors, du coup, avec ce que vous a dit Cécile, on a quand même pas mal changé d'habitants. On est pour l'instant 4 familles. Claire, elle est encore. Qui sont du départ. Après, il y a eu des départs et des arrivées. Donc, on a des jeunes ingénieurs. Enfin, encore jeunes, ils arrivent à la quarantaine. Et donc qui travaillent sur Villefontaine parce qu'ils sont avec l'association Crater que peut-être certains connaissent, qui c'est lié au Pizé, c'est une association qui travaille sur le Pizé. Et donc et ils habitaient la Croix-Rousse. Ils habitent Villefontaine, donc c'était plus pratique et dans un habitat groupé, ce qui pour eux quand même est un peu un prolongement de la terre et de ce qu'on fait, du bâtiment qu'on fait avec. Voilà. Et ils ont 3 petits-enfants. Y a un autre couple qui a un petit, tout ça. Enfin voilà. Donc on fait de l'intergénérationnel, sans le savoir. On l'a fait comme ça. Voilà.
D'autres questions ou d'autres témoignages maintenant, peut-être de.
Oui, bonjour. Je suis également habitante d'un immeuble d'habitat coopératif, le village vertical à Villeurbanne. Ça fait pour ma part 6 mois que j'y suis. Alors j'ai un statut particulier dans le village parce que il faut savoir que à Villeurbanne, dans l'immeuble, il y a 3 logements qui sont mis en gestion pour une association d'ado-logement pour les jeunes, dont je bénéficie. Et alors, pour répondre aussi, pour donner un point supplémentaire sur le côté juridique, à Villeurbanne, c'est une coopérative d'habitants. C'est-à-dire que le collectif s'est construit il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je ne sais plus la date précisément. Ils ont lancé toute la construction de l'immeuble et tout le projet. Et c'est la coopérative, ils ont monté la coopérative qui est propriétaire de l'immeuble, enfin de la partie de l'immeuble du village. Et chaque habitant va donner une redevance tous les mois pour participer aux frais, voilà, un peu comme un loyer, mais qui inclut les charges, les espaces communs et tout ça. Voilà. Pour ma part, c'est vrai que tout ce que vous avez raconté, ça me parle complètement, parce que dans la vie du village, du coup, c'est vraiment des choses qu'on vit. Alors, la vie du village à Villeurbanne est plus récente, puisque ça fait un peu moins de 4 ans que le village a été, enfin l'immeuble a été livré. Et donc il y a déjà eu quand même des départs, des arrivées, mais voilà, c'est vrai qu'on retrouve quand même déjà, même en si peu de temps, déjà voilà, tous vécus. Il y a plein de choses qui vont encore se passer forcément derrière. Et mais effectivement, on voit bien que voilà, il y a plein d'aspects à prendre en compte dans tout ça. Et même pour ne pas être entre guillemets dans l'organisation propre. Dans la vie du village, malgré le fait de pouvoir avoir un statut particulier, on a toute notre place, que ce soit aussi bien pouvoir mettre en place des projets, vie collective, événements, jardins, tout ça. Et malgré le fait que je sois arrivée par le biais de l'association, ça restait une vraie volonté aussi de faire partie de ce village. Et c'était une volonté aussi de la part des villageois d'inclure des jeunes et un autre public que, par exemple, des familles qui pouvaient arriver, parce que la plupart des villageois, ce sont des familles avec des enfants. Et certains enfants sont nés au village, d'autres ont connu le village vraiment tout bébé. Et voilà, ils grandissent et ils vont continuer, pour la plupart, à grandir aussi là-bas. Et c'est ça aussi qui fait la richesse. Et c'est vrai qu'ils ne s'attendaient pas, je pense, au départ, à ce qu'il y ait des personnes qui partent si vite après avoir emménagé, mais c'est aussi ça qui la vit, et finalement ça rapporte de nouvelles rencontres et de nouvelles perceptions. Et voilà.
Oui, sur le village vertical, il y a même eu des départs en cours du projet, hein, puisque comme c'était l'un des premiers qui tentait dans une nouvelle réglementation, ils ont dû mettre 10 ans pour arriver entre l'idée et les habiter. Et donc, il y a eu des gens, pour des raisons professionnelles, sentimentales et autres, qui ont quitté, même en cours de projet. Donc, c'est vrai que c'était un travail assez long, puisqu'ils ont été obligés de remettre, des fois, la tapisserie sur le métier. Hein.
Donc, voilà. Mais ça, c'est le...
C'est la vie. Hein.
C'est le lourd de tous les habitats groupés. Bah,
surtout en France, où les délais sont très longs. Si on prend l'Allemagne, où on arrive à des projets beaucoup plus rapides, il y a des villes allemandes qui ont un taux d'habitat groupé très important, parce que la législation est un peu différente. Et puis en France, on a une tendance aussi à avoir des projets extrêmement collectifs. Ça, c'est la volonté des gens qui se lancent dans ces projets-là. C'est-à-dire que pratiquement tout doit être décidé collectivement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une volonté et donc c'est assez compliqué. En Allemagne, dans l'habitat collectif, on peut trouver des habitats très différents finalement. Ce qui est mis en collectivité finalement, c'est les espaces extérieurs et les espaces intérieurs du style du studio pour accueillir un invité, ça va être les salles de lavage, souvent, mais déjà ça se fait dans l'habitat non collectif, hein, dans tous les immeubles c'est comme ça, juste pour éviter le bruit la nuit, donc c'est tout bête. Donc on a un phénomène français de l'habitat collectif qui ne simplifie pas effectivement l'installation de ce type de participation. Et puis les communes ne poussent pas non plus, puisqu'il y a des villes en Allemagne, je crois qu'ils en sont à 30% d'habitat collectif autogéré quand même, c'est pas à la marge. Hein. Nous, à Villeurbanne, je crois qu'il y en a un sur Villeurbanne. Il y a deux, trois projets. Il y en a un dans le Val-de-Saône. Il y a deux, trois projets. Il y en avait un sur la zone Confluence. Je ne sais pas où il en est, parce qu'il y avait un projet. Il y a Vaux-en-Velin. Oui. Il y a Vaux-en-Velin qui est un projet effectivement un peu intergénérationnel, effectivement pour des gens, des retraités qui veulent voir comment faire. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Question. Il y a des questions là-bas ou des remarques? Vas-y d'abord.
Bon.
C'est très court. Le sentiment que dans les pays du Nord, donc ça commence en Belgique, hein, aussi en Allemagne, au Danemark, tout ça. L'habitat partagé, ça vient un peu d'en haut quand même. C'est-à-dire que quelque part, c'est installé dans les dans les structures. Et donc, oui, par exemple, au Danemark, il y a des villages composés de plusieurs habitats collectifs. Donc ça veut dire qu'il y a un peu une volonté au niveau du pays, quoi. Bon, en France, c'est pas comme ça. Voilà.
Oui, bonjour. Donc, je vais pas revenir sur... j'étais pas tout à fait au début. Hein.
Présente-toi.
Luc Darras, je fais partie de Coaptitude. Coaptitude, c'est une association régionale qui dépend de l'habitat participatif au niveau français. C'est-à-dire qu'au niveau français, il y a peut-être que certains connaissent les rencontres nationales de l'habitat participatif. Tout ça, ça s'est mis en réseau avec les oasis en tout lieu, avec les colibris, etc. Et on a sorti une base de données qui recense aujourd'hui 400 habitats participatifs, donc qui se sont déclarés auprès de nous. Et sur la région, on en a environ 80. Donc en fait, on a un site hein, sur le, on a un site ici, c'est le un stand, pardon, excuse-moi, un stand. On a un stand qui est le stand C207. Je crois qu'il doit y avoir des tickets là-bas. Voilà. Donc, si vous voulez, il y en a ici. Vous pourrez les prendre en sortant. Et si vous cherchez toute information sur justement des habitats groupés, si vous recherchez des groupes, si vous cherchez à rentrer dans un habitat groupé, ou bien si vous offrez, je sais pas moi, un terrain ou une maison pour pouvoir créer un habitat groupé. Enfin, tout ce qui peut vous passer par la tête. Habitat groupé, c'est très 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 générique, c'est très général.
Juste une petite question sur le règlement intérieur. Comment vous avez conçu le règlement intérieur, sur quoi vous êtes basé pour mettre les premières pierres au règlement intérieur?
Alors, en fait, on l'a fait une fois on était dans les lieux, parce que ça faisait partie des objectifs de ne pas avoir de gardien. C'est nous qui assurons l'entretien des parties communes. Alors, la salle commune, la salle enfant, les garages à vélo, le garage à voiture, et on a deux grandes haies qu'on a plantées nous-mêmes. Alors, au début, chacun disait, bon, moi, je fais ci, moi, je fais ça, etc. Et puis, au bout d'un moment, quand tout le monde fait, des fois, personne fait. Donc, en fait, on a écrit, voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire, et qui c'est qui le fait, et on tourne. Et quand les gens ils voient ça, c'est quand même un engagement à faire en sorte que ça vive et que ça vive bien. Ça veut dire que il m'est arrivé d'aller en voir un en disant, écoute, c'est super sympa, t'es des cornes marionnettes, mais tu vois, ça prend vraiment beaucoup de place dans le couloir. Il faudrait envisager de les mettre ailleurs. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est tout bête. Hein. Il y a qui c'est qui assure l'achat du sel pour le déneigement, qui c'est qui assure la maintenance, parce que comme tout le monde, on a fini par mettre un garage avec bip bip, alors qu'avant il était ouvert 24 heures sur 24. Qui c'est qui assure la maintenance, qui c'est qui change les ampoules dans les allées, plein de choses, qui c'est qui nettoie les poubelles. Alors il y en a une, elle veut faire que ça, donc on ne change pas, parce qu'elle ne veut pas changer. Il faut être assez souple, mais il faut que tout le monde fasse un peu son boulot. Qui c'est qui ferme l'eau pour qu'elle ne gèle pas l'hiver, tout ce qui est en commun et pour que ça soit fait. Voilà, alors, donc c'est écrit.
L'éclairage, c'est moi. Alors c'est bien parce qu'avec les nouvelles ampoules LED, voilà, on les installe, c'est terminé, on n'en parle plus. Hein. Il n'y a pas à changer des ampoules qui claquent.
Ouais, c'est pas vrai.
Ah, mais si. Voilà, on a un débat familial là.
J'ai visité pas mal de lieux. Ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que chaque lieu a une identité très forte avec des logements très dessiné par les habitants. Donc il n'y a pas un habitat qui ressemble à un autre. Et on retrouve aussi pas mal de l'identité des groupes dans la façon dont les communs sont envisagés. Il y a des salles communes où on voit tout de suite qu'elles vivent énormément, elles sont hyper investies, elles sont très décorées, enfin aménagées. Et il y a des salles où on voit que les usages sont plus anciens, ou ont été requalifiés. Il y a un logement sur Meudon où l'habitat commun en fait sert d'accueil, a servi beaucoup d'accueil pour des réfugiés parce que les habitants ont vieilli et ne se réunissent plus ensemble. Il y a des habitants qui ont encore beaucoup de plaisir à se voir et à partager des repas ou organiser des manifestations. Et dans d'autres endroits, des habitants qui n'ont plus envie de se voir, mais qui ne sont pas pour autant fâchés, mais simplement ils ont passé trop de temps ensemble. Donc ils décident que les communs vont servir à autre chose. Et puis ce sont aussi des lieux où des associations peuvent démarrer, où ce sont des repères associatifs très importants dans les quartiers, dans les communes où les lieux s'implantent. Par exemple, Terre de Liens a organisé très longtemps ses réunions dans un habitat participatif à Montreuil, qui ouvrait ses portes. Ce sont des lieux qui sont repérés aussi comme des endroits où on peut commencer à réfléchir à des structures naissantes. Donc ce sont des lieux qui ont des vies multiples, en fait, qui influent aussi sur le quartier.
À la différence des salles municipales, on n'est pas obligé de les retenir 5 jours à l'avance, de payer une adhésion à une assurance. C'est toujours sous la responsabilité d'un habitant. La salle est qui ouvre et qui ferme et qui est présent. C'est ni une salle privée, ni une salle municipale. Donc ça a une souplesse qu'on ne trouve pas ailleurs. Ben, ça a servi beaucoup à Montreuil aux parents d'élèves. Nous, ça a servi carrément pendant les municipales, pour les groupes dont on était adhérents. Ça a servi pour les premières réunions du SEL, système d'échange local. Ça leur permettait d'aller un peu plus vite et de se réunir facilement. Voilà. Et des choses. Mais dans le règlement intérieur, c'est marqué. La salle commune est toujours sous la responsabilité d'un adhérent qui est chargé de l'ouvrir, de la fermer, de faire en sorte que ça reste propre, etc. quoi. Voilà.
Et puis pour certains habitants, l'habitat participatif, c'est quand même un endroit super pour élever des enfants. Parce qu'il y a souvent plusieurs... les enfants sont scolarisés à peu près tous dans les mêmes établissements. Pour les rentrées, les sorties, les problèmes. J'ai rencontré un habitant, sa femme a dû être hospitalisée de longues années. Il habitait à Montreuil, il n'aurait jamais pu continuer à élever ses enfants seuls s'il n'avait pas habité dans un habitat, parce qu'il savait qu'il y avait quand même quelqu'un qui allait chercher les enfants à l'école tous les jours. Enfin, il y a une espèce de convivialité qui fait que la vie quotidienne est quand même plus facile. Il y a plus de solidarité, en fait, c'est une ancienne solidarité, on va dire villageoise, au sens où moi je ne l'ai pas connue, donc on peut la fantasmer peut-être. Voilà, ça, c'est plutôt comme un village, mais c'est institutionnalisé dans un lieu avec ses hauts et ses bas.
Les enfants ont une grande facilité à repérer ce qu'il y a d'intéressant chez les autres. Par exemple, ils savent très bien quel est le jour où il y a les spaghettis bolognaises chez une copine, et voilà, ils sont nombreux à manger des spaghettis bolognaises. Ça devait être le mercredi, je crois, je ne sais plus quoi. Enfin, voilà. Je voudrais mettre un bémol à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport en France, il faut que ça soit tout collectivement décidé. Ça dépend beaucoup quand même des habitats. Et c'est ce que disait Anne, ils sont tous différents en même temps. Moi, je vois chez nous, à la Viorne, c'est beaucoup plus... on partage des choses... les gens sont intéressés par par exemple, il y a un sèche-linge à un endroit, le sèche-linge, il est partagé par 3 familles. Il y a d'autres choses, c'est pareil. C'est un peu comme ça à la demande. On est moins avec des réunions régulières, avec des. Voilà. Alors qu'il y a d'autres habitats qui sont plus. Ils sont tous différents. Il y a des gens qui demandent des fois, mais est-ce qu'il y a un modèle ? Il n'y a pas de modèle, c'est pas possible qu'il y ait un modèle avec un. Voilà. La seule chose qui est partagée par tous, c'est les locaux communs et le fait qu'on ait participé à la conception et qu'on participe aussi à la gestion. Voilà. Donc c'est ça qu'il y a de commun à tous les habitats groupés sur le territoire. Mais pas plus.
Oui, alors, notre côté, à Villeurbanne, c'est vrai que. Les espaces communs ont été pensés, on a une buanderie collective, des chambres d'amis, la salle commune effectivement qui vit énormément. On a effectivement le même dans la même idée des associations qui viennent régulièrement, notamment tous les jeudis soirs, il y a une association pour des producteurs, donc comme une AMAP qui s'appelle l'Arbre à légumes. Voilà, c'était vraiment un lieu qui a été pensé effectivement pour vivre, pour être en lien avec aussi bien des activités que peuvent avoir des villageois. Moi, ça m'arrive régulièrement, par exemple, de répéter d'autres villageoises qui en ont besoin pour une autre activité. Enfin, et pour revenir également sur les... Effectivement, il n'y a pas de modèle au niveau de la vie et de la gestion, de comment gérer. Chaque groupe vraiment se construit en fonction de ses envies, de ses, de, voilà, de ses expériences aussi. Et notre côté, c'est vrai qu'au début, je pense que le groupe a voulu partir énormément sur essayer de cadrer, d'institutionnaliser, de mettre des procédures. Alors le plus gros est mis en place et tourne très bien. Et maintenant, voilà, il y a aussi le côté, ben, est-ce que, voilà, on peut pas aussi essayer de lâcher un petit peu, d'essayer de vivre sans obligatoirement, systématiquement lancer dans des procédures, voilà. Il faut savoir qu'il y a les réunions donc des villageois, donc des coopérateurs, comme on dit, qui se réunissent très régulièrement, bah, qui vont parler après, voilà, par rapport à la coopérative, ça va être des décisions sur le bâtiment, sur ce genre de choses. Et après, il y a vraiment des réunions sur la vie du village, et là, tout le monde est là. Et ça va être, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'on lance des projets? Là, il y a eu, j'ai remarqué ça, est-ce qu'on pourrait pas, voilà. Et l'idée, voilà, dans ces réunions, c'est aussi, voilà, de voir. De faire vivre aussi le village, bien sûr. Et c'est dans ces moments-là que, comme je disais, on essaye, voilà, de mettre en commun et de poser des jalons sur certaines choses, mais sans systématiquement non plus lancer des procédures. Voilà. C'est plus, par exemple, on a remarqué ça, est-ce qu'on peut le mettre en place ou faire quelque chose, et après. Souvent, c'est une personne, deux, qui vont peut-être s'en charger, ça va être lancé, voilà. Et c'est souvent à ces moments-là aussi que participe vraiment la vie et de lancer les projets collectifs. Par exemple, une des dernières, ça va être, est-ce qu'on va relancer le jardin au printemps, tout bêtement. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qui est partant, enfin, c'est, voilà. Et c'est aussi des moments qui, mine de rien, restent moteurs, parce que, surtout l'hiver, parce que mine de rien, c'est vrai que l'hiver, on a moins tendance à se croiser parce que avec les espaces extérieurs, on en profite moins. Et comme vous disiez, c'est vrai qu'on se croisera plus facilement à la buanderie que. Voilà, et c'est aussi ça. Mais c'est aussi la force, comme vous disiez aussi par rapport aux enfants, cette entraide, cette solidarité. Même moi qui n'ai pas d'enfant, je sais que si j'ai besoin de quelque chose, je peux aller sonner chez le voisin. Et c'est aussi ça, cette simplicité, entre guillemets, sans se dire... Et ça aide aussi, je pense, dans l'idée de vouloir vivre autrement aussi par rapport à la consommation, je pense. Étant donné que, par exemple, si on a besoin de quelque chose, on n'a pas obligatoirement besoin d'aller l'acheter, on peut l'emprunter, parce qu'on sait que ce sera quelque chose dont on n'aura pas besoin systématiquement. On sait qu'il y a un voisin qui l'a, on peut partager et mettre en partage aussi ça. Et voilà, c'est aussi le côté intéressant.
Jean Siri de l'association Habiter Autrement Auvergne. Alors, est-ce qu'il y a des Auvergnats dans la salle? Et si vous avez un projet d'habitat participatif en Auvergne, vous pouvez vous adresser à notre association. Nous avons organisé autour de la présentation du livre deux interventions, une à Clermont-Ferrand, à la librairie des Volcans, autour du livre de Anne, avec Michel Lulek de Faux la Montagne, dont vous trouverez aussi des ouvrages des éditions Repas autour de ce qui s'est fait à Faux la Montagne, et aussi en zone rurale à Saint-Gervais d'Auvergne autour de la ruralité, parce que nous sommes voisins avec les gens du plateau de Millevaches, et ça a été aussi des expérimentateurs de l'habitat participatif avec ces personnes qui ont été les fondateurs de Ambiance Bois, si certains connaissent, à Faux la Montagne. Alors, je m'excuse, j'ai tourné en rond pendant une demi-heure pour trouver la maison bleue, mais la maison bleue n'est pas de la couleur bleue, donc ça m'a un peu...
C'est pas une question, je suis désolée, mais je vais profiter de l'assemblée qui est là, puisque notre projet d'habitat partagé, qui se passe dans la Drôme des Collines, entre Romans-sur-Isère et Valence, on cherche des foyers, et des foyers notamment de familles. Donc, si vous avez des questions, on peut rester là un petit peu.
Sinon, vous êtes à Eco-Ravi?
Non. Non, on est Les Fabriqués. Notre site internet, c'est Hameau Les Fabriqués. Vous pouvez trouver comme ça. Il y a toutes les informations.
Il est sur quelle commune?
Clérieux.
Comment?
Clérieux.
D'accord.
C'est un village où il y a... Donc nous, le bâti, le lieu est choisi. Il y a un bâti à rénover et il y a pour 2 ans de travaux.
Vous êtes sur la carte, hein?
On est sur la carte.
Vous êtes sur la carte.
Vous savez, vous l'avez appelé au téléphone. Ouais, ça me dit quelque chose.